Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Avec Tron, j'étais presque prêt lorsque Dillinger a débranché du système ceux qui avaient un accès au groupe 7.
Tu sais que Flynn veut à tout prix pénétrer le système depuis que Dillinger l'a écarté.
Sur RTL.
Pour que je puisse raconter à mes copines dans quel rêve je me suis baladé, où suis-je?
Tu es un invité du maître contrôle principal.
La curiosité est un vilain défaut.
Je vais te faire jouer aux jeux vidéo.
Ah bah quand tu veux.
La réalité virtuelle dans notre curiosité avec Anatole Lécuyer. Bonjour, bienvenue dans notre réalité à nous.
Bonjour.
Absolument pas virtuelle, mais plutôt radiophonique. Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche dédié aux sciences du numérique. Alors c'est amusant déjà quand on dit la réalité virtuelle, c'est déjà une contradiction en soi.
Oui, c'est vrai que c'est une expression un peu paradoxale. En fait, c'est un oxymore en français. C'est une expression qui contient deux mots qui s'opposent. Donc, il y a des précédents comme le silence assourdissant de Camus. Moi, j'avais un chef de labo qui disait souvent « il est urgent d'attendre ». Voilà, des expressions comme ça qui nous surprennent un petit peu. Mais c'est vrai que ça met le doigt sur un paradoxe qui est qu'avec ces technologies immersives, on se retrouve projeté, immergé dans une autre réalité de substitution qui est calculée par un ordinateur en temps réel. Et en réalité, on est quand même, on reste dans le monde réel. Hein. Mmh. Et donc, en fait, on est dans cette situation paradoxale entre deux réalités.
Alors, on a commencé à la définir là, avec vos propos, Anatole, mais Lécuyer, mais c'est quoi la réalité virtuelle? Comment ça fonctionne? Prenons un exemple concret pour tous ceux qui ne connaissent pas cette réalité.
Alors en fait, beaucoup d'entre nous et peut-être des auditeurs ont peut-être déjà essayé en fait ces casques de réalité virtuelle qui s'enfilent un peu comme des masques de ski. Et à l'intérieur de ces masques de ski, ces casques de réalité virtuelle, il y a des écrans qui affichent des images qui sont calculées en temps réel et qui vont permettre de se projeter, de s'immerger dans un autre univers. Parfois ce sont des vidéos 360, parfois ce sont des univers synthétiques en 3D calculés par des ordinateurs, un petit peu comme dans un jeu vidéo, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre là.
De Tron, du film Tron ou Tron.
De Tron, ouais. Un petit peu comme dans cette séquence. Alors j'ai plus toute la séquence en tête.
Il rentre dans un univers qui est complètement virtuel, c'est ça. Et c'est un personnage, c'est un humain qui se retrouve dans un univers virtuel.
Bah, souvent dans ces situations-là, en tout cas, on va être projeté dans un univers 3D. Il peut être très réaliste, parfois il peut être très imaginaire.
C'est d'abord l'univers des jeux vidéo quand même, la réalité virtuelle. Est-ce que c'est le premier marché, on va dire?
Bah aujourd'hui, pour le grand public, c'est le marché que peut-être tout le monde a en tête. Il y a d'autres marchés aussi pour le grand public qui sont en train d'arriver, les communautés virtuelles, le tourisme virtuel, les achats en ligne aussi, voire...
Attendez, on peut se balader dans un supermarché virtuel, c'est ce que vous nous dites?
Alors, peut-être pas encore aujourd'hui, peut-être,
bientôt,
il n'y a peut-être pas d'application, ça j'ai pas tout en tête, mais pourquoi pas dans quelques temps pouvoir tester son canapé ou des canapés dans son propre salon et choisir la décoration de son salon, revoir un peu la peinture, aménager sa cuisine ou sa salle de bain dans
même
des conditions très réalistes.
Se voir avec plusieurs pulls de couleurs différentes, pouvoir celui qui vous va le mieux.
Ah, enfin, il va changer de pull.
Et ensuite, l'acheter par correspondance. Quoi, j'ai un très joli pull noir, certes, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs.
Ce n'est quand, ça, la réalité virtuelle, Anatole Lécuyer?
Alors, les technologies sont assez anciennes, en fait. Hein. C'est les années 1960-70 aux États-Unis, en fait, où les premiers visio-casques, très proches, en fait, de ceux qu'on connaît aujourd'hui dans les concepts, hein. Même si les technologies étaient quand même très compliquées à l'époque. Et puis, les efforts récents, ça a été de perfectionner, de miniaturiser tout ça pour qu'ensuite on puisse les trouver aujourd'hui dans des magasins d'électronique, des magasins d'électroménager pour quelques centaines d'euros maintenant.
Mais comment ça marche? Comment on peut avoir cette impression d'être immergé dans un lieu? Vous disiez par exemple, on peut faire une visite d'un musée ou d'un appartement qu'on veut louer, et donc on peut même se voir bouger, déplacer d'une pièce à l'autre. Comment ça fonctionne?
Alors le principe, c'est de vous immerger, c'est-à-dire de simuler des sensations artificielles. Donc on va s'adresser à vos sens, essayer de leurrer vos sens et ensuite votre cerveau. Donc le premier sens qu'on essaye de leurrer et qui marche très bien, c'est la vision. Donc avec ce casque, ce masque, dont on a parlé, avec ces écrans stéréoscopiques. Donc il y a une image calculée pour chacun des yeux pour voir en relief comme au cinéma 3D.
D'accord.
Et puis après on va rajouter le son. Et puis plus récemment, là on essaye de travailler sur le toucher, par exemple toucher les objets virtuels. Donc en augmentant toutes ces sensations virtuelles, on crée une illusion de plus en plus plausible d'une autre réalité.
Comment on touche? C'est-à-dire qu'on va avoir des gants particuliers? Comment on peut avoir cette sensation du toucher?
Parce que
l'objet, encore une fois, l'objet n'est pas là dans la pièce où je suis et où j'ai mis ce casque. Hein.
Ouais, c'est ça l'idée, hein. C'est vraiment d'arriver à toucher des objets qui n'existent pas, arriver à sentir des objets virtuels. Donc il y a différentes technologies haptiques, c'est le terme un petit peu compliqué là pour désigner le sens du toucher, comme optique pour la vision. Ouais. Donc il y a différentes technologies haptiques, des gants exosquelettes, des modules tactiles, des combinaisons diverses et variées qui sont aujourd'hui à l'étude et qui permettent de pouvoir ressentir différents types de sensations physiques et tactiles, toucher la matière virtuelle.
Est-ce qu'on peut avoir le mal de la réalité virtuelle ? Moi, j'ai déjà chaussé une fois un casque de réalité virtuelle, j'ai été malade.
Sale sensation.
Ça, c'est... Je ne peux pas m'amariner, comme on dit dans la, dans la marine, ou c'est fichu, ou alors... On peut s'y faire.
On espère que non. Enfin, c'est un vrai défi aujourd'hui. Hein. Technologique, scientifique, on essaye de comprendre d'où ça vient. Il y a plusieurs causes possibles. Une d'entre elles, c'est un petit peu comme le mal de mer ou le mal des simulateurs. C'est que dans le mal de mer, vous êtes en train de lire un livre dans un bateau et là, vos yeux sont en train de dire à votre cerveau, bah, moi, je bouge pas, je suis en train de lire un livre. Et puis, par contre, votre oreille interne, elle est en train de dire, bah, là, je sens le roulis du bateau.
Eh oui.
Et le cerveau ne sait pas très bien quoi faire de ces deux informations qui sont différentes et on est malade. En réalité virtuelle, c'est pareil. Il y a de l'information visuelle de mouvement, ça bouge dans le casque et pourtant votre oreille interne elle dit bah non, moi je suis pas en train de bouger, je suis assis dans mon fauteuil, dans mon canapé.
Donc,
du salon.
Il y a des personnes qui ne
pourront on peut devenir malade.
Jamais vivre avec la réalité virtuelle, jamais s'en servir finalement.
Alors ça dépend un petit peu du contenu, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, ça peut être propice à générer ce genre de malaise. Mmh. Ensuite, les technologies, elles avancent. Il y a des hypothèses scientifiques qu'on teste en ce moment, même dans notre laboratoire, pour essayer d'améliorer ça quand même. Mmh. Donc on a bon espoir. Quand même.
Ouais, vous racontez tout ça, Anatole Écuyer, dans ce livre, « Votre cerveau est un super-héros quand les nouvelles technologies révèlent nos capacités insoupçonnées ». C'est aux éditions Human Science. Et on n'est pas obligé de mettre un casque pour vivre ce genre d'expérience, c'est ça ? Il y a de nouvelles techniques qui apparaissent.
Il y a différents types de systèmes. Oui. Donc, les casques, c'est vraiment ce qu'il y a de plus répandu et ce que vous pouvez tester aujourd'hui dans plein d'endroits. On trouve des visio-casques. Ensuite, des systèmes à base de projection. C'est un petit peu comme le cinéma 3D. Alors, ça demande un petit peu plus de place parce qu'il faut des écrans et des projecteurs. Mais nous, on a la chance à Rennes, dans notre laboratoire, Chinerie à Rennes, d'avoir une des plus grandes salles comme ça au monde. Donc 10 mètres de large, 4 mètres de profondeur, 4 mètres de haut. Vous êtes entouré par des écrans stéréoscopiques.
Même on vit quel genre d'aventure ? Même le plancher, oui ?
Le plancher également. Donc on est vraiment au cœur de l'image virtuelle et la sensation holographique est très puissante.
Donc ça, par exemple, pour le tourisme, pour visiter une jungle, par exemple, c'est idéal ?
Pour le tourisme, pourquoi pas. Après, nous, dans notre laboratoire...
Face à un tigre sans danger, quoi, c'est ça ? C'est possible, ça ?
Alors, c'est vrai qu'on évite les dangers. Par contre, votre cerveau, des fois, il va vraiment intégrer qu'il y a un danger. Un bon exemple, c'est le vertige virtuel. Si je vous mets au bord d'un précipice virtuel dans ces situations-là, ça va être très difficile de faire un pas et de sauter dans le vide virtuel, alors que pourtant, vous êtes sur le plancher des vaches. Mais il y a quelque chose qui vous retient, quand même. Mais les applications, elles sont vraiment très très larges, très vastes. Dans notre laboratoire, on va tester aussi bien des applications de formation, d'entraînement, d'éducation,
mais ça, on va
de simulation
le temps d'en parler, bien
chirurgicale,
sûr.
Etc.
De nos jours, la réalité est déprimante. Tout le monde cherche un moyen d'y échapper. Et c'est pour cette raison qu'à nos yeux, Hallyday était un héros.
RTL.
Il nous a montré un endroit où on pouvait aller sans réellement aller nulle part.
La curiosité est un vilain défaut.
On n'a pas besoin d'une destination quand on court sur un tapis roulant omnidirectionnel, avec support quadriphonique sensible à la pression. Ça, c'est l'Oasis. C'est un endroit où la réalité n'est limitée que par notre imagination.
Extrait du film Ready Player One, film de Steven Spielberg, qui ne raconte pas l'histoire de Hallyday Johnny, mais d'un chef d'entreprise qui a créé un monde de réalité virtuelle et qui va, assez compliqué, mettre en jeu un trophée que des joueurs virtuels vont se bagarrer. Ma phrase n'est pas française, mais je m'en sors à peu près. Bref, on est avec Anatole
Écuyer.
Oui, merci beaucoup. Directeur de recherche à l'INRIA, Institut National de Recherche dédié aux sciences du numérique. Vous êtes basé à Rennes, c'est ça ?
Oui, à Rennes.
Eh ben, merci d'être venu jusqu'à nous. Pendant l'interruption, on se demandait, parce qu'évidemment, ça fait rêver les casques de réalité virtuelle, et on disait quel personnage on voudrait être les uns et les autres. Bastien Robin, journaliste de La Curiosité, nous a dit...
Un joueur de foot, Zidane par exemple.
Au hasard. Et à ce moment-là, François Touchard, notre réalisateur, lui a rétorqué...
Zidane pour mettre le coup de boule, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est sympa.
Celui de 98.
Oui, très joli. Ah oui. Et ce qui nous donne la victoire, Jérémy, qui est en 3e à Chartres et qui est en stage à RTL. Salut Jérémy.
Bonjour.
Comment ça va ? T'aimes bien la radio ?
Ah oui, j'adore.
C'est vrai ? Tu voudrais faire de la radio plus tard ?
Bah pourquoi pas, oui.
Eh ben voilà.
Vous voudrez être à votre place, c'est ça, sa réalité virtuelle.
Oui, j'ai encore quelques années, parce qu'ils sont de plus en plus bons et jeunes, ça je sais bien, mais bon, merci beaucoup. Et alors, ce serait quoi ton personnage préféré en réalité virtuelle ?
Bah, Chewbacca aussi, ça me tente très bien.
Ah, monsieur Poilu, tiens donc, pourquoi pas. Et vous, Anatole Écuyer, parce que vous passez votre temps à tester ça.
Alors, effectivement, là, je pense que vous faites référence du coup à une partie du livre en fait où j'explique comment est-ce qu'on a essayé de recréer une séquence de la guerre des étoiles. Et moi, j'avais une scène en tête qui m'a marqué quand j'avais, moi, j'étais peut-être un petit peu plus jeune que toi quand même, mais quand j'ai vu l'Empire contre-attaque de la guerre des étoiles où il y a une scène dans ce film où Luke Skywalker soulève un vaisseau spatial,
s'entraîne
à soulever un vaisseau spatial.
Cette scène, on l'a en extrait, on écoute.
Mettre faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent.
Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
Très bien, je vais essayer.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
Et donc, vous avez créé le logiciel qui permet de faire ça ?
Et voilà, alors, on a recréé une séquence dans notre salle immersive, justement, échelle 1, son spatialisé, image 3D. Et puis là, en plus, un casque à électrodes sur la tête pour enregistrer votre activité cérébrale. Mmh. Et puis, il va falloir se concentrer pour essayer de soulever le vaisseau spatial. Donc, on est vraiment dans la reconstitution de la séquence de ce film où on doit s'entraîner à maîtriser la force et la télékinésie en réalité virtuelle.
Mais attendez, avec juste notre cerveau et notre concentration, on peut soulever un objet virtuel ? Mais comment ça fonctionne, en fait ?
Donc là, oui, c'est une autre famille de technologies dont je parle dans le livre et sur lequel on travaille depuis une bonne quinzaine d'années dans notre laboratoire, les interfaces neuronales. Donc il s'agit de technologies qui peuvent sembler futuristes, mais qui sont déjà à portée de main en fait aujourd'hui. Ouais. On essaye vraiment, nous, de démocratiser ces technologies-là. On va effectivement devoir s'équiper d'un casque à électrodes, vous savez, ces bonnets de douche avec les électrodes qu'on voit dans les séries ou à l'hôpital pour diagnostiquer parfois des types d'épilepsie ou des troubles du sommeil. Donc nous, on va les utiliser pour enregistrer les signaux électriques du cerveau et puis essayer de les décoder en temps réel, d'essayer de retrouver des signaux particuliers dans l'activité électrique et traduire ça en commande pour piloter un robot et en l'occurrence ici une simulation ou en l'occurrence ici une simulation de réalité virtuelle.
Mais ça laisse quel espoir en fait ? Comment, alors, on peut s'amuser déjà, ça c'est génial, jouer, être les héros de nos films préférés, mais qu'est-ce que ça permet de faire aussi en dehors du divertissement ?
Alors, les applications sont assez variées. Hein. En premier lieu, on pense depuis le début de ces technologies-là aux personnes handicapées, à l'assistance aux personnes handicapées, même si on est encore très loin aujourd'hui avec ces technologies-là de pouvoir remplacer les technologies d'accessibilité existantes. Mais c'est un but à long terme, en fait, pour ces technologies-là. Et puis après, il y a une vraie belle application aussi dans le domaine médical en rapport avec la rééducation du cerveau. Donc on va essayer de réentraîner, de reprendre le contrôle de certaines ondes cérébrales avec ces technologies et ainsi espérer rééduquer son cerveau, par exemple.
Si quelqu'un a fait un AVC et qui, par exemple, parfois, quand les AVC sont très graves, on n'arrive même plus à prendre une fourchette pour la mettre à sa bouche. Et donc, il faut que le cerveau invente d'autres parcours, d'autres chemins.
C'est un petit peu l'idée. En fait, on va essayer, avec ces technologies, de fournir aux patients des outils pour qu'ils puissent essayer de retrouver une certaine plasticité cérébrale ou de réentraîner certaines zones cérébrales qui sont proches ou éloignées, ça dépend de la zone lésée, et ainsi espérer retrouver des capacités motrices. C'est vraiment un projet de recherche actuellement qu'on mène à Rennes en collaboration avec pas mal de collègues rennais, le CHU de Rennes notamment, et l'INSERM.
Anatole Lécuyer, vous publiez « Votre cerveau est un super-héros », c'est aux éditions Humaine Science. Et on y découvre aussi que la réalité virtuelle, donc qui fait parfois et souvent même appel aux fonctions de notre cerveau, peut jouer un rôle dans l'éducation, dans la pédagogie. La réalité virtuelle est déjà entrée à l'école, là ?
Alors, j'ai un projet comme ça en tête par des collègues de Bordeaux qui utilisent la réalité augmentée, réalité virtuelle, et augmentée pour remplacer dans les TP d'optique les systèmes qu'on utilisait, en tout cas à mon époque, au lycée, avec les lasers, les lentilles, et puis on apprenait les fondamentaux de l'optique. Mais du coup, ça demande du matériel, et puis c'est un petit peu dangereux, les lasers. Donc là, on peut utiliser les systèmes de réalité virtuelle pour manipuler ces outils qui peuvent être parfois un petit peu dangereux, et pour essayer de mieux comprendre ou représenter ou se représenter des phénomènes très complexes physiques, les forces d'interaction entre les molécules aussi. En chimie, pour faire des expériences sans risquer de faire exploser ou de salir la paillasse. Disséquer une grenouille virtuelle, c'est peut-être un petit peu plus...
Mais c'est valable pour tout de l'éducation. On peut aussi vivre ses cours d'histoire en immersion, par exemple. On vit la prise de la Bastille. Bon, évidemment,
l'idée, c'est vraiment d'intégrer ça à des programmes pédagogiques et de voir comment l'outil peut servir à faire passer effectivement de l'information et servir de support pédagogique. Mais il y a un potentiel très fort, effectivement, dans ce domaine.
Est-ce que la France est plutôt en pointe sur ces questions de réalité virtuelle ?
Oui, je pense qu'on a vraiment des très belles cartes en main côté français, donc que ce soit au niveau académique et aussi au niveau industriel, et puis au niveau du tissu économique général autour de ces technologies-là. On figure très bien dans le, dans le Gotha mondial de la recherche académique, qui est aussi animé, fortement animé par les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et d'autres pays européens aussi.
Existence, c'est autre chose qu'un jeu.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les possibilités sont immenses.
La curiosité est un vilain défaut.
Un système de jeu entièrement nouveau qui a coûté 38 millions de dollars.
Sur RTL.
Et maintenant, je me retrouve bloquée à l'extérieur de mon jeu. Je n'ai aucun moyen d'y entrer ni d'en sortir.
Extrait d'Existence, un film de David Cronenberg. Vous savez, dans beaucoup de films de cinéma, on explore cette réalité virtuelle. Et ce n'est pas que de la fiction, ça existe. Et d'ailleurs, on a invité Anatole Lécuyer, qui est directeur de recherche à l'Institut National de Recherche dédié aux sciences du numérique. Et avec vous, on arrive vraiment à bien comprendre comment cette réalité virtuelle peut déjà nous divertir, mais aussi nous soigner, tout ce que ça ouvre dans notre quotidien. Et on peut imaginer aussi un jour, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous regardent sur RTL.fr, qui aiment bien voir les coulisses de la radio, on peut même imaginer que certains auditeurs pourraient prendre la place de l'un d'entre nous, l'invité, François Touchard, Bastien Robin, Thomas ou moi-même, pour voir ce que c'est de participer à une émission de radio. Est-ce que c'est possible de modéliser notre studio et de faire vivre cette expérience à nos auditeurs ?
Ah oui, aujourd'hui, technologiquement, c'est tout à fait faisable, voire même, il y a des entreprises qui peuvent vous accompagner dans ce projet-là. Je pense qu'il y en a certains qui nous écoutent, qui seront ravis de vous faire un devis.
Du coup, là, on sera moins ravis de payer, peut-être, mais bon, ça, c'est autre chose.
Et alors, du coup, les étapes sont les suivantes. Donc d'abord, ouais. On va essayer de... Alors, soit c'est une vidéo 360, on va essayer de vivre plutôt une séquence filmée à l'intérieur de ce studio.
D'accord.
Mais bon, vous ne pourrez pas forcément bouger, vous déplacer, attraper un micro, toucher les boutons,
casque,
etc.
Ouais.
Donc si vous voulez faire ça, on va plutôt essayer de modéliser en 3D, donc faire appel à un infographiste qui va modéliser plus ou moins finement, ça va dépendre du budget encore une fois que vous avez, le studio dans lequel on est. Et puis après, ce qui va être intéressant, ça va être de reconstruire aussi les animateurs par exemple, donc d'avoir une reconstruction 3D des...
Vous pouvez me faire un peu plus jeune.
Des personnages, pourquoi pas.
Plus de cheveux. Donc
là, c'est à discuter.
10 cm de plus.
Et donc on va prendre des photos
plus larges, pardon, je vous laisse.
Alors on va prendre des photographies un peu sous toutes les coutures, et puis on va reconstruire en 3D les deux animateurs, et du coup ensuite... En réalité virtuelle, l'auditeur va pouvoir chausser son casque. Ouais. Et là, il va choisir le point de vue et pourquoi pas choisir le personnage dans lequel il veut s'incarner. Et il va prendre possession du corps virtuel, par exemple, de l'animateur ou du réalisateur, et pouvoir ensuite aller manipuler les boutons, les micros, etc.
Ah ouais, c'est génial. Alors, on a d'autres rêves. Tiens, par exemple, est-ce qu'on pourrait, vous parlez d'incarnation grâce à la réalité virtuelle, revivre ce moment-là ? Les oreilles les plus rompues à l'histoire du rock diront que c'est Woodstock, Janis Joplin. On est en août 1969. Est-ce qu'on pourrait devenir, mais je ne sais pas, soit le spectateur de Woodstock ou même être sur scène avec Janis Joplin et les autres ?
Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Il se trouve qu'effectivement, un projet dans ce sens est porté actuellement par un des chercheurs les plus connus du domaine, Mel Slater, à l'Université de Barcelone, qui a proposé, qui s'est fait financer un projet très ambitieux, qui va pousser ces technologies-là, avec comme objectif illustratif de pouvoir revivre des séquences comme celle-ci, des concerts historiques comme celui de Woodstock, où on pourra du coup se replonger dans cette ambiance et éventuellement passer sur scène, backstage ou dans la fosse.
Il y a une autre expérience.
Dans la gadoue, parce qu'il y a un orage mémorable, on l'avait raconté.
Mais on peut modifier, vous savez, les événements et enlever la gadoue.
Un Woodstock sans orage.
Anatole Écuyer, vous avez mené aussi une expérience dans votre institut. C'est l'expérience du sixième doigt. Comme c'est énigmatique, ça sert à quoi ?
Oui, c'est vrai que c'est un titre un peu énigmatique. En fait, on voulait pousser très loin ce sentiment d'incarnation virtuelle où on va essayer, quand on met un casque de réalité virtuelle, on regarde son corps, il a changé, c'est un corps virtuel, il peut être plus grand, plus petit, plus gros, plus musclé, changer de sexe, changer de peau. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un corps virtuel différent ? Comment est-ce qu'on prend possession de ce corps ? Est-ce qu'on va le rejeter ? Jusqu'où on peut aller ? Quel effet ça a sur notre psychologie, sur notre identité ? On a essayé d'aller assez loin dans le sens où on a regardé ce qui se passait lorsque vous êtes dans un corps qui est anatomiquement différent du vôtre. Donc on regarde sa main virtuelle et là, en fait, on voit qu'il y a un truc bizarre, il y a un sixième doigt. Mmh. Alors, est-ce que vous allez rejeter ce doigt ? Est-ce que vous allez l'accepter ? En fait,
est-ce qu'on peut le faire bouger ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ?
Une procédure de conditionnement qui prend pas très longtemps, mais vous allez finir par même ressentir ce sixième doigt avec des stimulations tactiles, avec un petit pinceau qui brosse le doigt. Vous pourrez voir dans le livre.
Comment c'est possible, ça ?
Vous découvrirez ça dans le livre, je peux pas tout dire à l'antenne. Mais en tout cas, on a une belle procédure pour ça. Et à la fin, vous allez ressentir ce sixième doigt. Et quand on enlève ce doigt, quand on revient une main à 5 doigts virtuels, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose.
Pardon, parce que ça ouvre des perspectives. Notamment, on pourrait imaginer un marché du sexe virtuel.
Ah oui, bah, hein,
souvent on parle de doigts, évidemment.
Déjà,
il y a les casques virtuels pour le sexe.
Alors ça, je suis pas très au courant.
Je suis sûr que vous connaissez ça. J'essaierai
de me renseigner pour une prochaine interview.
Mais en tout cas, cette expérience, ça permet aussi, par exemple, aux personnes qui ont des prothèses, qui ont été amputées, qui ont une prothèse, tout d'un coup, de se réapproprier ce nouveau membre ou pas.
Alors là, pour le coup, effectivement, une des applications, c'est de voir comment des gens qui ont perdu un membre et qui vont avoir du coup une prothèse pourraient peut-être s'entraîner en réalité virtuelle dans des conditions sécurisées, bien contrôlées, à contrôler ces prothèses. Et puis aussi pour des acteurs, aujourd'hui, jouer un dragon avec des ailes, des cornes, c'est pas forcément évident de savoir comment se comporter. Et ben, s'incarner d'abord dans ce personnage virtuel permettrait peut-être de les mettre en situation et de pouvoir s'entraîner à répéter des scènes dans des bonnes conditions.
Tiens, puisque vous parlez de grosses choses qui volent, moi j'ai la phobie des oiseaux. Est-ce que je pourrais soigner cette phobie grâce à la réalité virtuelle ?
La réalité virtuelle, effectivement, une des applications qui est souvent mentionnée, c'est le traitement des phobies en réalité virtuelle avec une exposition progressive aux éléments anxiogènes pour commencer à domestiquer sa peur progressivement. Donc ce sont des thérapies qui sont anciennes, les TCC, les thérapies comportementales cognitives.
Sauf qu'on le faisait avant avec les vrais animaux, c'est ça ?
Avec des photos, avec d'autres types de supports. Là, l'idée, c'est qu'en réalité virtuelle, on peut vraiment très bien contrôler la stimulation. Et du coup, s'exposer progressivement avec d'abord une toute petite araignée, un petit peu symbolique par exemple, et puis après ça va grossir, ça va devenir une araignée un petit peu plus impressionnante. Et donc on va comme ça s'entraîner à domestiquer ses peurs. C'est une des applications de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, il y a des applications effectivement qui sont commercialisées dans ce sens-là, qui sont vendues à des médecins qui ensuite proposent ces thérapies-là.
C'est passionnant, Anatole Lécuyer. Plein d'autres informations, expériences à découvrir dans votre livre. Votre cerveau est un super... Oui, il est un peu tôt là, j'ai cru qu'il était 29.
On peut encore poser une petite question. Moi,
oui, c'est vrai.
Par exemple, je me fais une entorse de la cheville, je peux faire ma rééducation grâce à la réalité virtuelle, ça peut aider ?
Oui, tout à fait. La rééducation aussi motrice peut être facilitée, ça va être plus motivant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire nos exercices fastidieux pour rééduquer sa cheville, par exemple, sur un petit plateau, en plus, on va coupler ça avec un joystick ou quelque chose qui sera accroché à votre pied. Vous allez pouvoir du coup faire du surf virtuel et ce sera beaucoup plus motivant et sans doute tout aussi efficace, voire peut-être plus efficace qu'une séance traditionnelle de kiné.
Je vais en parler à mon kiné.
À ceux qui disent la réalité virtuelle, ça nous coupe du monde, vous répondez quoi ? Parce que c'est la critique qu'on lui oppose souvent.
En tout cas, c'est une bonne question à se poser. Je pense qu'il faut être vigilant sur les usages. Il ne faut pas être naïf sur ces usages-là aussi et sur les effets néfastes qu'il pourrait y avoir. Donc il faut être assez prudent, un petit peu comme dans toutes les technologies. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention aussi et avoir un usage maîtrisé et contrôlé.
On se dit au revoir pour de vrai maintenant, Anatole Lécuyer. Merci beaucoup.
Merci.
Votre cerveau est un super héros, c'est passionnant et c'est aux éditions Humaine Science. À bientôt.
Et bon retour à Rennes, à l'Institut de recherche dédié aux sciences du numérique.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.